à tous et bienvenue pour ce cours numéro 5 de préparation au passage de la certification, donc le MCP 70533 qui s'appelle Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solution. Et donc ce cours numéro 5, on va se focaliser sur un élément particulier du cours et des questions qui est donc l'implémentation d'Azure Active Directory. Donc je suis accompagné d'Arnaud.
Bonjour.
Et de Pascal.
Bonjour Stan.
Alors, l'objectif de ce cours, il est en gros de découvrir, dans le cadre de la préparation de l'examen, tout ce qui est Azure Active Directory, sa création, son paramétrage, son intégration avec des annuaires existants, et plus particulièrement avec des annuaires sur site comme Active Directory, et de voir dans un deuxième module, donc ça, ce sera le premier module, la découverte, et le deuxième module consistera à configurer donc, les applications SaaS, principalement, pour utiliser en fait, Azure Active Directory. On est dans ce cours plutôt orienté dans l'optique de vous aider à préparer la certification 70533. Nous avons passé l'examen, donc nous avons vécu l'examen et nous avons vu un petit peu sous quelle forme on pouvait vous poser des questions sur ce sujet-là. Donc on va très orienter notre message sur, en gros, l'examen, sans vous donner pour autant les questions. Alors est-ce que l'un d'entre vous veut détailler un petit peu ce que c'est que cet examen ?
On peut dire que c'est un examen qui dure 2 heures, 120 minutes. Il y a 50 questions, des questions qui sont pas des questions à grand scénario avec grand texte d'explication d'un scénario et à la suite duquel il y aurait plusieurs questions. Non, c'est des questions individuelles, élémentaires, avec des choses à choisir. Pas mal de questions sur le mode, voilà une séquence de commandes PowerShell à exécuter pour faire telle action, compléter les trous, avec il y a certains trous et certaines options à glisser par exemple dans la suite de commandes PowerShell.
Beaucoup de QCM également.
Beaucoup de QCM.
Donc choix multiple, choix unique ou choix multiple, plusieurs cases à cocher.
Ouais, les 120 minutes pour les 50 questions sont pas de trop, j'ai trouvé, personnellement. L'examen est en anglais pour l'instant, il n'est pas encore en français. Si vous parlez japonais, tant mieux pour vous. Nous, c'est pas le cas, donc on l'a fait en anglais. Il y a en gros 6 ou 7 thèmes qui sont abordés dans ce cours sur Azure Infrastructure, donc les websites, les machines virtuelles, le stockage, le réseau, Azure Active Directory, donc qui est l'objet de ce cours présent. Également tout ce qui est site recovery et backup, et puis les cloud services. Et donc pour chacun de ces sujets, on vous fait un petit cours récapitulatif comme celui-ci.
Chaque sujet correspond à peu près entre 15 et 20% des questions de l'examen. Donc c'est sur un pool global, on n'a pas tous eu les mêmes questions normalement. On ne vous donnera pas les questions, mais on va vous donner quand même une bonne orientation pour la partie révision, qui vous donneront des idées des points qui sont les plus importants à réviser. Donc on va attaquer ce premier module qui va consister donc déjà à présenter ce que c'est que Azure Active Directory et puis montrer comment on peut l'intégrer, le compléter ou le faire coexister avec des annuaires existants, principalement Active Directory que vous avez depuis des années dans vos data centers.
Mais d'abord Pascal, qu'est-ce qu'Azure Active Directory ?
Alors Azure Active Directory, comme son nom l'indique, hein, c'est un Active Directory dans Azure.
Merci Pascal.
C'était bien de le préciser.
C'est-à-dire, donc. C'est une solution cloud de type, on pourrait presque parler de SaaS parce que c'est du logiciel dans le cloud, mais bon, parlons de plutôt de ID MAS, comme certains aiment à le dire.
On donc est passé dans un acronyme à 6 lettres, donc ça veut dire qu'on est quand même dans des choses très, très techniques
et avancées.
On parle
de gestion des identités et des accès basés dans le cloud.
Donc,
comme un service.
Identity Management as a Service.
Donc voilà, imaginez votre Active Directory, mais dans Azure. Donc il y a du service d'annuaire, évidemment, il y a du service d'identité, de la gestion des accès, qui va nous permettre, par exemple, d'accéder à des applications avec une identité qui est définie dans le cloud. Vous définissez vos identités, vos utilisateurs dans Azure Active Directory, dans le cloud, et ces identités vont leur servir pour s'authentifier sur des applications dans le cloud aussi. Donc évidemment, tout un tas de problématiques se soulèvent. Par exemple, comment je synchronise ce que j'ai dans mon entreprise avec ce qu'on va créer dans Azure Active Directory. Donc on a plusieurs niveaux d'offres, évidemment, en fonction des différents niveaux de services qu'on va offrir. On a un Azure Active Directory Premium qui est l'offre complète avec toutes les fonctionnalités présentes.
Plus cher.
Voilà, exactement. Qui nous arrange un petit peu au niveau du tarif.
Azure AAD, donc c'est effectivement le service d'IAM. Alors vous allez dire d'où ça sort ça, est-ce que c'est utilisé beaucoup? Bah un petit peu, hein, puisque c'est ce qu'on utilise d'ores et déjà. Si vous avez de l'Office 365 dans votre entreprise, bah, c'est d'ores et déjà ce que vous utilisez.
Tu veux quelques chiffres?
Allez, on voit.
4,9 millions d'entreprises sont clientes aujourd'hui d'Office 365, donc ça veut dire qu'on a déjà 4,9 millions d'Azure Active Directory qui existent pour les entreprises. Et ça représente aujourd'hui à peu près 1 milliard d'authentifications qui sont faites tous les jours, avec certains jours des pics à 2 milliards.
Qui dit mieux?
Moi, je pense qu'il n'y a pas mieux.
Je crois. Ouais. Donc effectivement, c'est ce qu'on utilise pour Office 365, pour Intune, pour Dynamics CRM, pour les offres de SaaS tout simplement, et puis même pour tous les autres accès. Donc, si on regarde un petit peu dans ce qu'on a dans l'offre premium, on va rêvons un petit peu ensemble, hein, qu'est-ce qui est présent dans cette offre, dans ce packaging. Bah, d'ores et déjà, c'est du SLA. C'est-à-dire qu'on s'engage à fournir un niveau de disponibilité de 99,9% du service. Et puis en plus, on a d'ores et déjà inclus dans cette Azure AD Premium les droits, licensing de Identity Manager Server.
Autre nom de Forefront Identity Manager.
Exactement.
Alors, donc, les quelques questions qu'on pourra sur l'examen là-dessus, enfin sur ce point-là ici, c'est principalement sur quel est le choix d'un mode de licence d'édition d'Azure Active Directory, si on a besoin ou pas, en gros, le niveau de service de SLA. C'est là où va se faire un petit peu le choix.
Et il faut dire également que la version premium, donc son objectif, hein, sa raison d'être, c'est de donner toutes les fonctionnalités pour faire de l'hybride.
Oui, c'est sa raison d'être.
Donc on a de l'Azure de l'Active Directory en local, on veut le synchroniser, on veut faire des choses avec l'Azure Active Directory dans le cloud. On a des applications en local et dans cloud, donc tout ça va pouvoir bien fonctionner.
Tout ce qui répond à des besoins de type entreprise, ça veut dire qu'on va vouloir avoir des choses qui font des opérations en self-service, comme le reset de password, comme l'accès avec de l'authentification multiple facteurs. C'est dans cette offre premium qu'on va retrouver ces choses-là de type entreprise qui ne sont pas forcément nécessaires dans la version gratos ni dans la version basique.
Non. Alors la version basique, ce n'est qu'une version entre guillemets dégradée de la version premium. C'est-à-dire qu'elle cible principalement des entreprises qui ont des besoins d'avoir un accès à des applications SaaS et puis en gros de la gestion d'identité un peu en libre-service. Par contre, on n'a pas tous les éléments qu'on peut avoir dans le premium dans la version basique parce qu'il est un petit peu moins cher. Donc il y a des choses qui n'apparaîtront pas. Alors le tableau n'est pas à retenir par cœur si on compare les différentes offres. Peut-être à retenir que sur la version premium, on aura pas mal de choses sur les rapports d'identité, les rapports de sécurité qui sont beaucoup plus avancés, beaucoup plus détaillés. Que tout ce qui est gestion de groupe, qui est réinitialisation de mot de passe avec synchronisation inverse, qu'on appelle du write-back password, on en parlera tout à l'heure, c'est spécifique à la premium. Donc attention sur les questions sur le write-back password, ça veut dire derrière de la premium. Tout ce qui est authentification par multifacteur avec un téléphone, par exemple, le MFA, là encore, ça fait partie de la premium. Et puis quand on parle de licence de serveur d'identité, de gestion d'identité sur site, donc Microsoft Identity Manager ou X4Front Identity Manager. Mm-hmm. Là encore, c'est uniquement disponible avec la version premium.
Et puis, petite cerise sur le gâteau de la version premium, c'est le Azure Application Proxy, Azure AAD Application Proxy. En deux mots, l'idée elle est simple, hein, c'est utiliser le service Azure Active Directory comme proxy pour publier à l'extérieur une application qui est disponible à l'intérieur de votre data center.
Donc Azure, c'est un service de reverse proxy.
C'est un service de reverse proxy, donc l'intérêt c'est que Azure va prendre toute la charge, toutes les attaques de type DOS, et puis votre application elle est protégée de manière sécurisée une fois que l'accès est authentifié avec les services d'Azure Active Directory. Et c'est là que ça fait sens en fait. Le contrôle d'accès, l'auto-authentification, l'autorisation d'accès aux ressources aux applications.
Voilà. Ici, dans les questions que vous pouvez avoir également, c'est sûr, vous avez un Active Directory avec tant d'objets, et pas de contraintes particulières, quelle est la meilleure édition. Donc vous voyez que ici la limite d'un Azure Active Directory gratuit, c'est 500 000 objets, ce qui est déjà large, mais en fonction de la question qu'on peut vous poser sur le nombre d'objets et les contraintes associées au service, eh bien, ça vous permet de déterminer quelle est l'édition la meilleure.
L'identité comme point de contrôle, alors globalement, comment est-ce que ça s'inscrit dans une stratégie? Bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, l'accès aux applications dans le cloud Microsoft vont se faire sur cette identité, Office 365, Intune, Dynamics, CRM. Ça peut être également des applications métiers que vous avez déployées, des applications de partenaires dans l'écosystème qui ont déployé, qui ont utilisé leur application pour utiliser l'authentification dans Azure Active Directory. Après, de l'autre côté, comme les acteurs, ben, en fait, on a l'identité qui existe dans votre data center depuis déjà des années et des années. Donc, comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux? Ben, c'est effectivement une possibilité qu'il y a avec Azure Active Directory, c'est qu'on va synchroniser le monde de l'identité dans vos data centers avec Azure Active Directory. Et donc, on va faire l'authentification en conjonction avec ce que vous avez dans votre data center, avec différents mécanismes sur lesquels on va revenir dans les prochains slides, différents mécanismes de fédération ou de synchronisation complète des jeux d'identité. Et puis ensuite, on pourra effectivement tirer parti de cette identité dans ces services, dans ces applications, et puis on pourra consommer ça sur différents types d'appareils, tous les appareils. C'est le monde dans lequel on vit, du cloud et du mobile. C'est la réalité de la consommation d'informations à l'heure actuelle.
Donc là, retenir, peut-être, c'est il y a deux grosses parties en fait dans ce slide qui s'est un peu animé au fur et à mesure de ton discours. C'est que tout ce qui est application cloud extérieure, Microsoft et Microsoft, vont appuyer leur identité sur Azure Active Directory. Et que Azure Active Directory, en fait, il va être également alimenté par l'annuaire interne de l'entreprise via des mécanismes de synchronisation et ou de fédération. Donc, synchronisation d'annuaire avec Azure Active Directory, Pascal, quelles sont les options ?
Donc, évidemment, quand on a un Active Directory interne, on ne va pas vouloir retaper toutes les identités dans Azure Active Directory. Donc, il y a un processus de synchronisation automatique qui est possible. Donc, la synchronisation peut se faire simplement en synchronisant les identités, les noms, les prénoms, les emails, les choses comme ça. Et puis, on peut faire également une synchronisation complète avec le mot de passe des utilisateurs. Donc, évidemment, ça ne va pas être le mot de passe lui-même en clair, mais le hash du mot de passe, hein, techniquement. On va passer sur le détail, mais ça va être simplement le hash du mot de passe qui va être répliqué. Donc,
c'est un H de H, c'est ça ? On va faire un H du H qu'on va transmettre. On va pas transmettre le H local, on va transmettre un H du H. Mais je m'embarque peut-être dans des détails un peu trop détaillés.
Peut-être. En tout cas, on n'aura pas de questions là-dessus, ouais. Je pense.
Par contre, il y aura des questions sur les outils de synchronisation et lequel choisir en fonction des scénarios.
Donc, on a un outil qui s'appelle DirSync, qui existait depuis un petit moment. Et puis, un nouvel outil qui s'appelle AAD Sync, qui fait globalement la même chose, sauf qu'il a plus de scénarios qu'il supporte, c'est notamment la synchronisation en environnement multiforêt.
Et c'est justement sur des petits points comme ça, en fait, que vous allez pouvoir sélectionner le meilleur choix par rapport, effectivement, à la question qui vous est posée.
Donc, si on vous demande quel outil dois-je utiliser si j'ai un environnement multiforêt pour faire de la synchro avec Azure Active Directory, ce sera AAD Sync.
Exactement. Donc ça ressemble à ça, une interface Azure Active Directory. Je peux vous la montrer très très rapidement en démonstration. Si je vais bien me charger, voilà. Donc dans la console d'Azure, vous allez aller sur la partie ici Active Directory. Et à l'intérieur, ici, vous allez retrouver vos utilisateurs. Donc les utilisateurs peuvent provenir de différentes sources. Soit c'est des utilisateurs qui sont full cloud, on les appelle Windows Azure Active Directory. Soit c'est des utilisateurs qui ont été synchronisés via les outils dont tu as parlé, DirSync ou AAD Sync, et qui proviennent donc du l'AD local. On peut également mettre dans un Azure Active Directory des utilisateurs de notre Azure Active Directory. Et la synchronisation, on va le retrouver ici dans la partie Directory Integration. Et vous remarquez ici la présence d'une synchronisation qui s'est passée dans mon cas il y a moins d'une heure et qui est activée. Derrière, après, si on est en mode premium, on va avoir ici des licences Azure AD Premium qu'on ira affecter aux utilisateurs pour avoir des fonctions complémentaires. Les fonctions complémentaires, on les verra tout à l'heure, mais globalement, elles vont aller du multifacteur en passant par de la personnalisation, du libre service. Arnaud nous en a parlé tout à l'heure, donc avec la possibilité de resetter les mots de passe par utilisateur. Et puis les méthodes peut-être pour sont intéressantes à connaître pour le reset, je crois qu'on en parle après. Téléphone, adresse email, en gros, méthode alternative pour pouvoir faire le reset de son mot de passe. On revient ici sur le slide deck. Et donc, on va parler un petit peu des prérequis d'Azure Active Directory Sync, Pascal.
Oui, donc pour installer cet outil de synchronisation AAD Sync, il faut quelques prérequis qui sont pas bien méchants. D'abord, il faut n'importe quel Windows Server supporté aujourd'hui, donc à partir de la version Windows Server 2008. On n'a pas de contraintes au niveau du rôle du serveur. On peut installer ça sur un serveur autonome, aussi bien qu'un serveur membre d'un domaine. Même si on est sur un contrôleur de domaine, si on le souhaite, si on est un petit peu coincé au niveau du nombre de serveurs, bien qu'on ne recommande jamais d'installer les outils sur des DC. Donc on les laisse tranquilles, les pauvres DC, ils ont déjà beaucoup à faire. Il faut une base de données SQL, donc n'importe quelle version de SQL fonctionne, mais on vous installe par défaut lors de l'installation un petit moteur SQL Express, donc pas de souci à ce niveau-là. Donc pareil, hein, ça marche depuis la version 2008 d'SQL Server. Il faut du .NET 4.5 et du PowerShell de préférence version 3. Et puis, au niveau du compte de service, ça va par défaut utiliser un compte de service local. On a la possibilité, on va le voir, d'utiliser un compte du domaine si on le souhaite. Donc, quand on installe le AAD Sync, en fait, on rentre dans un process avec plusieurs écrans. On est dans un super assistant, en fait, hein, qui va avoir différentes étapes. Donc, la première étape nous demande simplement dans quel répertoire on veut l'installer. Par défaut, dans cette première étape, il fait des choses qui vont être, par exemple, par défaut, installer toutes les dépendances. SQL Server Express, plusieurs outils, le AAD Connector, le Sign-in Assistant, etc., etc. Donc tout ça, ça va être installé pour nous, de façon automatique. Et puis par défaut, il va utiliser un compte de service local, avec un mot de passe qu'il va gérer lui-même, donc qui va être aléatoire. Donc si on veut changer quoi que ce soit là-dedans, par exemple si je veux utiliser un serveur SQL particulier que j'ai déjà installé, soit en local, soit à côté, ou utiliser un compte de service dans le domaine par exemple, je peux le faire, mais en spécifiant des paramètres sur la ligne de commande de l'assistant que je vais lancer. On ne peut pas le faire graphiquement, il faut les spécifier dans un paramètre.
Alors la connexion à Azure Active Directory, Pascal.
Donc pour se connecter à Azure Active Directory, l'outil, le service va devoir se connecter avec un compte qui a des droits dans Azure Active Directory. Et donc il faut spécifier un compte de la AD, Azure Active Directory, qui a des droits de Global Admin.
Donc ça c'est valable pour AAD Sync, mais c'est également valable pour dire Sync, c'est la même chose.
D'accord. Tout à fait. Donc, par contre, oui, petit détail, si vous utilisez le portail d'Office 365, un Global Admin, ça s'appelle un Company Admin dans ce portail-là qui est particulier.
Donc, attention, dans l'examen, des fois, ils peuvent comme ça, parce que dans l'examen, ils parlent beaucoup souvent d'Azure AD avec Office 365, et il n'est pas impossible qu'ils utilisent la terminologie d'Office 365 dans leurs questions ou dans leurs réponses.
C'est un point à garder en tête. Hein. Ils pourront imaginer des questions. Je dois faire une synchronisation dans l'annuaire local avec Azure Active Directory. Qu'est-ce que j'ai besoin au minimal comme compte dans Azure Active Directory? Donc effectivement, j'ai besoin d'un compte Global Admin ou Company Admin si je suis en Office 365. J'ai besoin d'un compte administrateur dans le domaine, etc. etc. Les autres points que tu vas aborder. Ouais. Donc c'est vraiment important de revoir ces différentes étapes, d'avoir ces différentes étapes en tête.
À ma connaissance, il n'y a pas de question, mais on n'active pas l'authentification double facteur sur ce type de compte parce que c'est pas DIRSync qui va sortir son téléphone et attendre un SMS.
Peut-être dans une version future.
Voilà.
Troisième étape importante également, Pascal.
Donc l'outil doit également, vu qu'il fait de la synchro entre l'Active Directory local et l'Active Directory dans Azure, se connecter à l'Active Directory local. Et donc pour ce faire, il faut lui donner un compte qui est dans l'Active Directory local. Donc n'importe quel compte qu'on vient, on n'est pas obligé d'être administrateur, on n'est pas obligé d'avoir de droits particuliers. Sauf dans certains cas très particuliers, par exemple si on a un Exchange hybride, une configuration d'Exchange hybride, ou qu'on veut faire de la synchronisation de mots de passe, ou de la réécriture de mots de passe. La réécriture de mots de passe, hein, le password write back, c'est pas quelque chose de magique, hein, c'est simplement le process qui consiste à réécrire les modifs de mots de passe qu'on aurait fait dans Azure Active Directory vers l'Azure, l'Active Directory interne.
Pour un examen important, pour faire du write back cache, on a besoin de quelle édition ?
Non, du write back. Hein ? Pas de write back cache.
Password write back.
J'ai du cache, oui, ok, du write back.
Tu aimes trop le stockage.
C'est pas grave. Oui, j'aime trop le stockage. Quelle édition donc d'Azure Active Directory ?
Mais il faut de la premium.
Exactement, la plus chère.
Oui, les scénarios avancés hybrides, c'est premium.
Et pareil, pour faire du write back, pas cache, mais du write back, password write back, il vous faut le Azure AD Sync. Donc le AAD Sync, le DIR Sync, ça ne marche pas. C'est trop vieux le DIR Sync pour le write back.
D'accord. Effectivement. Donc on spécifie le domaine, le nom, le mot de passe du compte de la forêt locale. Ensuite, il y a un choix à faire. Alors je ne pense pas qu'il y ait des questions sur ce choix dans l'examen. J'espère qu'il n'y en a pas parce que c'est pas quelque chose de très...
Je crois en avoir vu une en fait. Mais les réponses qui étaient, les propositions de réponse entre guillemets étaient... Il y en avait trois stupides et une qui était possible. Donc des fois ça marche comme ça dans les examens MCP. On prend soit la moins mauvaise, soit la plus probable.
Voilà. Sans rentrer trop dans le détail, cet écran vous permet de configurer la façon dont on va déterminer qu'un utilisateur est unique. Si jamais on le rencontre, par exemple, dans deux forêts séparées ou dans deux domaines séparés, etc., on va pouvoir dire sur quel attribut on détermine qu'il est unique.
On va se baser pour déterminer l'unicité, effectivement. Alors,
ouais. Généralement, souvent, l'email est utilisé. On se dit que l'email est unique dans l'entreprise. Même si on a plusieurs domaines derrière, sous arborescence de domaine, c'est pas gênant, le nom extérieur, entre guillemets, et l'email.
Ouais, ça peut être effectivement l'UPN,
L'UPN, voilà. Est-ce qu'on a une question sur l'UPN? Ah, c'est pas impossible qu'il y ait une question en disant où est-ce qu'on va aller modifier les propriétés l'UPN d'un utilisateur. Et auquel cas, effectivement, bah, ça se fait dans les propriétés de l'objet utilisateur qu'on peut avoir via la console User and Domain and User, donc d'Active Directory sur site. En PowerShell également, on peut le faire.
Dans l'écran suivant, ça c'est le même écran sur la fonction sur la. Pardon, sur avec quoi on match les users, les utilisateurs dans, du côté de l'Azure Active Directory, donc entre le Object GUID et le User Principal Main, donc ce fameux UPN qu'on va utiliser effectivement quand on va par exemple utiliser son nom pour s'authentifier sur un site SaaS, on va toujours utiliser son UPN et son mot de passe dans ces scénarios-là.
Les fonctions optionnelles?
Donc les fonctions optionnelles, c'est les fonctions de type le fameux write back de mot de passe, fonction de AAD Premium. C'est la possibilité de limiter les attributs qu'on va synchroniser vers Azure Active Directory. Donc option à limiter vraiment avec parcimonie, fortement déconseillée d'ailleurs, puisque sinon on peut se retrouver dans des scénarios qui ne fonctionneraient plus. Mmh. Et puis Exchange Hybrid, donc les scénarios spécifiques à Exchange, aux architectures hybrides d'Exchange.
Alors, ça peut faire partie de l'objet de question. Effectivement, est-ce qu'on peut limiter ou pas les attributs, quel outil on prend pour limiter les attributs, etc.
Donc, limiter les attributs, ça consiste à... En fait, toutes les autres questions qui sont posées dans cet assistant aboutissent à un ensemble d'attributs qui vont être répliqués. Et si on coche cette case pour encore plus limiter, filtrer les attributs, on va rentrer dans un petit peu plus dans le détail, ce qui n'est pas forcément conseillé. Ce qui ne simplifie pas la chose.
Voilà. Ce qu'on voit sur les écrans qui suivent derrière.
Voilà, on a la possibilité de faire du filtrage d'attributs au niveau des applications qu'on va utiliser pour les informations de l'annuaire. Bon.
Ok, passons. Là encore, le set, ça paraît vraiment d'importance. Dernière chose, effectivement, quand on va lancer la configuration, cliquer sur le bouton configure, ce qui est important, c'est que ça déclenche quoi derrière?
Ça déclenche une belle commande PowerShell qui va exécuter l'installation. Et donc, ce qui va se passer en dernier, voilà, on est sur l'écran terminé, voilà, c'est ça. C'est que, en fait, si on sélectionne la case à cocher Synchronize Now, ça va créer une tâche programmée, d'accord, et ça va l'exécuter. Sinon, si on la décoche, la tâche programmée est effectivement, la tâche planifiée est effectivement créée, mais elle n'est pas activée, elle ne sera jamais exécutée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas activée. D'accord, et donc si on peut réactiver l'automaticité en fait de la synchro, il faut revenir manuellement dans les tâches programmées et activer la tâche en question qui a été créée par l'assistant.
Au passage, il y a des questions dans l'examen concernant la synchronisation et de comment déclencher la synchronisation. On va voir juste après quelques commandes PowerShell, mais il est important de savoir effectivement que en fin d'installation de l'assistant, en ayant coché ici le Synchronize Now, automatiquement on crée une tâche active et on la déclenche.
Voilà.
Vous aurez également dans les choix d'options, est-ce que je redémarre le service, des syncs, est-ce que ça resynchronise ou pas. Donc ça, on vous laisse regarder effectivement la documentation pour vérifier ce point-là. Mais ça fait partie effectivement des réponses qui sont souvent proposées. Pour faire la synchronisation de mot de passe, alors ça peut justement servir pour des questions pièges dans l'examen, c'est qu'il faut dire sync et non pas AAD sync. Donc ça c'était, quand on écrit ici pas AAD sync pour l'instant, c'était au moment où l'examen, on va dire, a été fait. Donc AAD sync a évolué depuis, donc il y a des chances que ça le fasse désormais. Oui, ça doit le faire désormais. Mais pour l'examen, entre guillemets, ils ont fait un distinguo entre le dir sync et l'AAD sync pour des questions. Là encore, c'est pareil, pour faire la synchro de mot de passe, il vous faut un compte global d'Azure Active Directory, normal, pour écrire dedans. Il vous faut un compte administrateur du domaine AD, normal, parce qu'il va falloir réécrire des choses dans l'AD, donc il va falloir des privilèges dans l'AD. Le Start Online Coexistence Sync est une commande PowerShell que nous vous encourageons fortement à regarder sa structure et à savoir à quoi elle sert, parce que celle-ci, vous allez le trouver forcément dans au moins une question sur l'Azure Active Directory dans l'examen. Et retenir effectivement qu'on fait la synchronisation des mots de passe de AD vers AAD, donc de on-premise sur site vers le nuage, et que si on est en mode basique ou premium, on a en plus comme option la capacité pour les utilisateurs de faire un reset de leur mot de passe tout seul, donc en mode libre service, et qu'on a également, qu'on peut activer, elle n'est pas activée de base, la réécriture de mot de passe, donc le password write back, qui consiste en fait à changer par l'utilisateur dans Azure, via le mécanisme de self-service, son mot de passe, et le mot de passe redescend de Azure Active Directory vers Active Directory sur site.
Tout à fait.
Donc ces deux commandes-là sont, doivent être connues, mais elles sont relativement claires.
Donc pour activer ou désactiver ce write-back de mot de passe, c'est enable online password write-back et disable online password write-back. Donc ce sont des commandes qui sont fournies avec l'outil dirsync quand on l'installe.
Voilà. Quand on ne veut pas synchroniser les hashes ou les condensés de mot de passe dans Azure Active Directory, on va faire ce qu'on appelle de la fédération d'identité. Donc ce qu'on retrouve dans les interfaces ou dans certains textes comme du single sign-on. Donc, si dans la question on vous dit qu'on ne veut pas synchroniser les mots de passe, ça veut dire que la réponse sera de la fédération. Et dans ce cas-là, ça veut dire que l'authentification ne se fera pas, c'est-à-dire quand l'utilisateur mettra son login, son mot de passe, la vérification ne se fera pas en fait sur Azure Active Directory, mais se fera localement sur votre Active Directory en passant par ce qu'on appelle un serveur STS, un Secure Token Server, qui est donc le serveur de fédération. Le paramétrage peut être un peu complexe de tout cela à retenir. Pour l'examen, c'est qu'on a un outil qui s'appelle AAD Connect, qui est un super assistant qui va vous faire l'installation de AAD Sync, plus l'installation des composants nécessaires à la mise en place d'une fédération. Donc ça va vous installer les serveurs STS, ça va vous les paramétrer, etc. Donc en gros, c'est un assistant qui vous fait la totale et qui vous demande pas mal d'informations, mais qui derrière en fait fait pas mal de paramétrages qui normalement sont assez longs à faire sur un système.
Il est final, ces outils ou...
Non, il est encore en preview 2. Je crois qu'il est cité dans une question dans l'examen, mais il ne précise pas qu'il est... voilà.
D'accord. Donc on a la possibilité de filtrer la synchronisation, évidemment, quand on a une Active Directory qui a vécu, qui a du volume dans l'entreprise. On n'est pas obligé de synchroniser l'ensemble des comptes, notamment on ne va pas synchroniser des comptes de service, des comptes techniques, etc. Et donc on peut faire différents types de filtrage au niveau de ce qu'on veut bien synchroniser vers l'Azure Active Directory. Donc on peut filtrer par OU, on peut filtrer par domaine, on peut filtrer par certains attributs utilisateurs. Et donc comment ça se passe? Donc pour faire ce filtrage, il faut lancer un outil qui s'appelle le Synchronization Service Manager, qu'on va trouver directement sur le disque. Je crois que c'est misclient.exe.
Oui, c'est ça. En fait, si je
ne m'abuse.
C'est le Microsoft Identity Management client, anciennement Forefront Identity Manager.
Donc, dans le test, on ne vous fait pas lancer l'exécutable. Hein. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, comment ça va se passer? Là, on vous montre ici la fenêtre principale de cet outil Synchronization Service Manager. C'est l'outil qui vous permet également de surveiller si tout se passe bien, si les dernières synchros sont bien passées. Donc, c'est plutôt sympa à connaître.
Oui. Là, il peut y avoir une question qui vont vous demander effectivement comment vérifier que la synchro s'est bien passée. Dans les options de choix, effectivement, on a cet outil qui est proposé. Effectivement, parce que graphiquement, on a les informations, on peut également les dumper dans des logs.
Le Synchronization Service Manager. Okay. Donc là, pour aller voir ce filtrage, il faut cliquer en haut sur le deuxième bouton, le Management Agent. Une fois qu'on a cliqué dessus, on va avoir nos deux agents sur les deux pattes du connecteur. Donc il faut aller sur Source Active Directory, faire ses propriétés, et là on obtient la fenêtre des propriétés de notre connecteur du côté Active Directory local. Et dans la partie Configure Directory Partitions, on peut ici configurer le filtrage. Donc là, en l'occurrence,
c'est les partitions. En dessous, on a le Select Attribute qui permet de sélectionner ce qu'on veut synchroniser comme attribut. Et donc on a pas mal de paramétrages ici assez fins. Il n'y a pas besoin de connaître pour l'examen l'ensemble des éléments. Mais voilà, sachez qu'effectivement, si on vous demande, si on vous propose des outils pour aller voir si une synchro s'est bien passée ou pour déclencher manuellement une synchro, cet outil en fait partie. Donc on a effectivement la ligne de commande PowerShell, on a cet outil, on a le fait de relancer l'assistant AAD Sync qui permet également de redéclencher une synchronisation. Donc on revient un peu sur la synchronisation.
Donc on a une tâche planifiée, pardon, oui, qui s'exécute toutes les heures. Par défaut avec dirsync.
Toutes les 3 heures.
Toutes les 3 heures, pardon, ouais, en plus je le vois. Toutes les 3 heures.
Par défaut.
Les mots de passe, c'est toutes les 30 minutes. Et puis, ça inclut donc le service de synchronisation.
Le fameux NGS client.
Le fameux client qu'on vient de voir.
FIM étant Forefront Identity Manager, l'ancien nom de Microsoft Identity Management.
Qui lui-même avait M2IS comme ancien nom.
Qui s'appelait avant également CLM, voilà. Parce que c'est une fusion de CLM et N2IS. Mm. Bon, passons. Ah, bah ça c'est pour toi, parce que là c'est du PowerShell. Ah bah
c'est du PowerShell, donc c'est pour moi, effectivement. Donc la surveillance de la synchro se fait au travers de deux logs. Donc un log de synchronisation de l'annuaire et un log de synchronisation des mots de passe qu'on peut activer et désactiver avec ces commandes. Donc enable dir sync log, disable dir sync log et pareil avec password sync log.
Alors ça c'est important, Arnaud, dans le cadre de l'examen, et puis même c'est important en général de le savoir.
Bah ouais. C'est que, en fait, toutes les instances d'Office 365 utilisent de l'Azure Active Directory. Donc, techniquement, c'est ça, même si on n'en a pas conscience, même si on n'a pas accès à la console Azure AD, en fait, dans l'Office 365, c'est de l'Azure AD qui est utilisé. Petite chose à faire, on peut, par contre, avoir accès à la console Azure Active Directory pour régler un ensemble de paramètres additionnels à ce qu'on voit dans la console Office 365. Donc pour ça, c'est assez intéressant de faire l'opération. On peut comme ça rattacher les deux éléments ensemble et offrir un accès à la console Azure AD pour les personnes qui ont Office 365.
Voilà. Pour les personnes qui n'ont pas Office 365, on peut créer un Azure Active Directory dans la console d'Azure et après, quand on va créer l'abonnement qu'on va s'abonner Office 35, on peut dire rattache-toi à un annuaire existant. Les deux options sont possibles. On peut ramener, visualiser l'annuaire qui était d'Office 35 dans la console d'Azure, mais on peut également partir de la console d'Azure avec un Azure Active Directory existant et créer derrière un abonnement Office 35 qui sera bindé sur cet annuaire. Voilà. Les deux sont possibles.
Par défaut, si on n'a pas envie d'avoir le nom de la boîte .onmicrosoft.com, ce qui est le nom par défaut quand on crée un espace de nom Azure Active Directory, ben on peut avoir un nom DNS qui est personnalisé. Pour ça, on peut aller voir son registreur préféré hein, et puis lui demander un nom de domaine particulier. Donc on achète ce nom de domaine, on ajoute le nom de domaine à Azure AD, et ce qu'il va nous demander, c'est de positionner un certain nombre d'enregistrements dans le DNS pour vérifier qu'on n'est pas en train de squatter un espace de nom qui n'est pas le nôtre. Hein. Donc on va mettre à jour des enregistrements DNS qui vont nous être donnés par Microsoft dans le registrar et on va vérifier le domaine en ajoutant un enregistrement de type TXT ou MX dans les zones.
Alors là, ce n'est absolument pas neutre ce quatrième point du point de vue question-examen parce qu'effectivement, ça fait l'objet d'une ou deux questions. De dire on a fait telles étapes, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour valider et d'avoir un nom primaire.
Alors là, il y a un petit piège, hein, puisque la valeur, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Petit piège.
Ouais. Il est beau celui-ci. Hein.
Ouais, fatal.
On n'a rien dit. Et puis, une fois qu'on a fait cette opération-là, que Microsoft est content, on va changer le nom du domaine primaire pour l'annuaire.
Ouais. Sans vouloir faire de pub, hein, certains registreurs sont automatiquement intégrés et donc Azure va pouvoir aller faire la modif directement pour
vous. Et la modification se fait dans cette console-là, donc on vient sur la partie domaine. Et puis sur la partie domaine, vous voyez que donc, vous sélectionnez le domaine qui vous intéresse, votre nom de domaine. Par exemple ici, si j'ai envie que ce ne soit pas onMicrosoft mais adinazure.info, je le sélectionne et je clique sur le bouton bas qui s'appelle Change Primary. Et à ce moment-là, effectivement, je me retrouve à pouvoir utiliser quels que soient mes comptes, qu'ils soient pure cloud ou synchronisés, la même identité, et je n'utilise plus ou je ne demande plus à mes utilisateurs d'utiliser des noms d'user, @ mon nom Azure Active Directory .onmicrosoft.com.
Cool, ben merci pour cet aperçu des l'activation de Azure AD et puis la synchronisation avec l'annuaire de l'entreprise.
On va passer au deuxième module juste après, qui sera la configuration de l'accès aux applications SaaS en utilisant Azure Active Directory.